Bonjour, je suis Claude Garceau. Bienvenue à cette série de balado-diffusion portant sur la mise à jour du guide de pratique en diabète de l'ADA de 2024. Mon invité aujourd'hui est Émilie Vigneault-Simard, qui est infirmière IPSA à l'hôpital Laval, spécialiste en réadaptation cardiovasculaire. Alors bonjour Émilie, voici la partie 2 du consensus de l'ADA sur la prise en charge de la maladie cardiovasculaire chez le diabétique dans le chapitre 10. Nous allons discuter aujourd'hui d'antiplaquetteurs, de dépistage de maladies cardiovasculaires, d'insuffisance cardiaque et de maladies artérielles périphériques. Commençons donc par le sujet des antiplaquetteurs chez les diabétiques. Alors, Émilie, je t'écoute.
Oui, donc c'est un sujet qui est très vaste. Il y a une étude de 95 000 patients qui avaient un diagnostic de diabète. L'aspirine avait démontré une réduction de 12 % des événements cardiovasculaires avec une diminution plus importante des infarctus du myocarde non fatal. L'étude ASCEND s'est concentrée sur les diabétiques en prévention primaire lors d'un suivi de 7,4 ans. On a observé qu'il y avait une diminution des issues primaires aussi de décès cardiovasculaires, d'infarctus du myocarde, d'AVC et d'ICT de 12 % au prix par contre d'une augmentation des segments majeurs de 4,1 % dans le groupe traitement versus 3,2 % dans le groupe placebo, essentiellement des segments gastro-intestinaux. Donc, pour ces raisons-là, l'ADA recommande l'aspirine en prévention primaire chez les hommes et les femmes de plus de 50 ans et de moins de 70 ans, avec un facteur de risque majeur ou plus de maladies cardiovasculaires qui n'ont pas de risque augmenté de segment. Donc, ce qui détermine les patients qui ont un risque plus augmenté de segment, évidemment, il y a l'âge, les antécédents d'anémie ou d'insuffisance rénale, par exemple. Donc, après un syndrome coronarien ou un AVC, quand on est en prévention secondaire, la durée de la double thérapie antiplaquettaire, donc aspirine plus un inhibiteur du P2Y12, devrait être déterminée par le cardiologue ou le neurologue. Dans les cas d'allergie à l'aspirine, évidemment, le Plavix devrait être utilisé.
Donc, c'est quand même un changement partiel dans le sens que pour beaucoup de gens, on avait presque abandonné en prévention dite primaire l'aspirine chez les diabétiques. Donc, il y avait un concept aussi qui était dans les airs il y a quelques années, le concept de résistance à l'aspirine chez les diabétiques. Ceux qui avaient également un poids de plus de 70 kilos semblaient être plus résistants. Qu'est-ce qu'il y en est maintenant?
En effet, on croyait que les diabétiques pouvaient avoir une résistance accrue à l'action de l'aspirine. Il y a une méta-analyse qui suggère que d'utiliser de plus fortes doses d'aspirine chez ces patients-là n'amène pas de bénéfices supplémentaires. Donc, cette notion-là de résistance à l'aspirine, en effet, a perdu des plumes avec la méta-analyse qui a été publiée.
Bon, passons à un autre sujet, si tu veux bien. Chez le patient qui a un diabète qui est asymptomatique, est-ce qu'il est recommandé de faire des tests de dépistage pour la maladie coronarienne, considérant que c'est des patients au risque?
C'est vraiment une bonne question. Puis non, c'est pas recommandé, même si ça plaît à l'esprit d'être agressif dans le dépistage des patients à haut risque. L'ADA recommande de pas faire d'examen essentiellement parce qu'il n'y a pas d'avantage à le faire lorsque les facteurs de risque sont bien contrôlés. Donc, ça change très peu la conduite. On peut considérer des investigations chez les patients symptomatiques, donc des symptômes cardiaques atypiques, des signes ou des symptômes associés à des maladies vasculaires, incluant des souffles carotidiens, des symptômes évocateurs d'ICT, d'AVC, de claudication, de la maladie artérielle périphérique ou des anomalies à l'ECG. C'est les indications pour aller de l'avant avec des examens d'investigation. S'il y a une présence d'anomalies à l'électro, donc on pense à un bloc de branche gauche ou des anomalies du segment ST, on devrait favoriser l'échographie de butamine ou les examens en médecine nucléaire afin d'éliminer une maladie coronarienne, puisque l'interprétation de l'électro à l'effort peut être plus complexe. Sinon, dans les autres circonstances, le brou standard, donc le bon vieux tapis roulant, est tout à fait adapté pour le dépistage de la MCAS.
Ben, parallèlement à ça, est-ce qu'il y avait une mode de vouloir faire la recherche de maladies coronariennes avec le score calcique au CT? Est-ce que c'est encore valable?
Chez les patients diabétiques, ils ne semblent pas avoir de bénéfice à mesurer le score calcique d'emblée. Le score calcique, il faut le voir un peu comme un outil pour stratifier le patient à risque modéré, puis pour décider chez les patients justement qui auraient un risque modéré avec un CT score élevé au score calcique, de les traiter, donc d'initier une statine. Par contre, chez les diabétiques, la prise en charge agressive des facteurs de risque semble suffisante dans la plupart des cas, puis ils ont déjà une indication pour la plupart de débuter une statine.
Ben, ça m'apparaît très clair. Donc, maintenant, je vais te parler d'un autre sujet Il faudrait peut-être cependant rechercher, par la mesure du pro-BNP, la possibilité d'une insuffisance cardiaque. C'est même une recommandation pour l'ADA de niveau B. Ça, c'est un changement par rapport à la pratique actuelle. On nous dit que si le pro-BNP est élevé, il faudrait poursuivre par la demande d'un échographie cardiaque. Ça, c'est une recommandation de niveau A. Alors, qu'est-ce que c'est le pro-BNP pour nos auditeurs qui sont moins familiers et quelles sont les valeurs anormales?
Donc, le dépistage de l'insuffisance cardiaque chez les patients diabétiques, tant les diabétiques de type 1 que les diabétiques de type 2, là, peut faire une immense différence dans le devenir de ces patients-là. On estime la prévalence à 22 %. Donc, il y a un consensus là, de l'ACC, donc l'American College of Cardiology, puis de l'ADA, qui a été publié pour nous éclairer sur le sujet. Donc, l'insuffisance cardiaque et l'insuffisance rénale, là, c'est les premières manifestations de maladies cardiovasculaires dans cette population-là. Le BNP est produit par l'oreillette cardiaque en présence d'étirement. Donc, la mesure des BNP ou NT pro-BNP est particulièrement utile pour identifier les insuffisances cardiaques stade B, puis devrait être effectuée annuellement là, chez les diabétiques. Ça a été démontré efficace pour identifier la présence d'insuffisance cardiaque à des stades précoces, puis mettre en place des stratégies pour prévenir l'apparition de symptômes liés à l'insuffisance cardiaque. Donc, les seuils de BNP anormaux là, sont supérieurs à 50 picogrammes par millilitre. Puis pour les NT pro-BNP, on parle de seuils anormaux là, supérieurs à 125. On voit aussi souvent sur les rapports, il peut y avoir des différences dans les âges. Là. Donc, par cœur, je ne me rappelle pas, mais on garde en tête que supérieur à 125, là, c'est augmenté.
Donc, faut juste pour nos auditeurs, ce n'est pas un test ésotérique au Québec. On peut l'avoir facilement, même en primaire, en soins primaires. Donc, l'augmentation des NT pro-BNP supérieur à 125, c'est pas nécessairement diagnostique d'insuffisance cardiaque. Ça peut être faussement élevé lors de la maladie pulmonaire décompensée, comme la MPOC, l'embolie pulmonaire ou l'apnée du sommeil. Donc, je vous suggère de relire ou d'avoir une formation supplémentaire sur ce marqueur de l'insuffisance cardiaque. Alors, Émilie, parlons maintenant, si tu veux, de la maladie artérielle périphérique, qui est sans doute la maladie, en tout cas du moins de la part des médecins, qu'on recherche le moins.
Donc, l'étude Partners a révélé que 30 % des patients âgés de 50 à 69 ans avec des antécédents de tabagisme actif ou de diabète souffraient d'une maladie artérielle périphérique. Donc, c'est une prévalence qui est très importante. Le diabète augmente les chances de souffrir de maladies artérielles périphériques de 85 %, donc c'est super important de la dépister. La moitié des patients vont être asymptomatiques. Donc, la prévention primaire de la maladie artérielle périphérique permet de diminuer les amputations, ça a été clairement démontré. La prévention secondaire de la maladie artérielle périphérique, elle va diminuer la survenue de maladies cardiovasculaires. Donc, la mesure de l'ITB, de l'indice tibio-brachial, est recommandée chez les patients de plus de 50 ans qui ont des complications au pied, une atteinte d'organes cibles en lien avec le diabète. Donc, par exemple, chez un patient qui aurait de la protéinurie, qui aurait de la rétinopathie, on devrait mesurer l'ITB. Puis chez les patients qui ont un diabète depuis plus de 10 ans, un dépistage de la maladie artérielle périphérique là, devrait être considéré, donc une recommandation de grade B.
Maintenant, quelles sont les valeurs anormales à l'ITB?
Donc, lorsque les valeurs d'ITB sont supérieures à 1,4, généralement, on parle d'artères non compressibles. Les valeurs normales d'ITB vont se situer entre 1 puis 1,4. 0,91 puis 0,99, on parle de valeurs limites. 0,41 puis 0,90, on parle d'une maladie artérielle périphérique légère à modérée. Puis, un ITB inférieur à 0,4, on parle de maladie artérielle périphérique grave.
Donc, on va rechercher peut-être plus souvent qu'auparavant l'ITB. Et lorsqu'on a des valeurs critiques ou qu'on a des plaies aux membres inférieurs, il y a quand même de nouvelles recommandations concernant l'utilisation du rivaroxaban en maladie vasculaire périphérique. Et ça, c'est quelque chose qui est très rarement fait, qui devrait être fait pour diminuer le risque résiduel.
Absolument. Puis ça nous amène à parler de l'étude de COMPASS qui a été effectuée auprès de 27 000 patients. En fait, cette étude-là a démontré chez les patients qui avaient soit une maladie coronarienne stable ou une maladie artérielle périphérique, un modeste avantage cardiovasculaire avec le rivaroxaban 2,5 mg BD. On parle d'une diminution de 1,3 % en absolu des décès cardiovasculaires, d'AVC, d'infarctus du myocarde non fatal avec une tendance vers la diminution de la mortalité. Donc, malheureusement, le bénéfice a été terni là, par une augmentation de 1,2 % en absolu toujours là, du risque de segment majeur. L'étude comportait 36 % de patients diabétiques. Donc, pour nous éclairer un peu dans ce chapitre-là, il y a l'étude Voyager, quant à elle, qui a été effectuée auprès de 6564 patients qui avaient une maladie artérielle périphérique modérée à sévère. Les conclusions étaient similaires aux résultats de COMPASS, un bénéfice de réduction du risque d'ischémie aiguë des membres, des amputations, des infarctus du myocarde, des AVC et de la mortalité cardiovasculaire a été observé. Or, on voit une augmentation du risque de segment également là, qui avait été noté. Donc, en résumé, la prescription de rivaroxaban 2,5 mg BD doit être considérée chez les patients qui ont une maladie coronarienne stable et ou une maladie artérielle périphérique. Mais il importe de considérer évidemment le risque de segment également puis de prendre une décision partagée avec les patients en tenant compte des risques puis des bénéfices.
Maintenant, quelles sont les recommandations thérapeutiques chez le patient diabétique de type 2 de façon plus large, là, si on veut, avec maladie cardiovasculaire établie?
Donc, chez ces patients-là, évidemment, l'utilisation des inhibiteurs du SGLT2 ou des agonistes du GLP1 est fortement recommandée là, dans une optique de réduction du risque cardiovasculaire, une recommandation grade A.
Donc ça, c'est complètement fondamental. Votre patient diabétique qui a une atteinte documentée doit avoir à bord un inhibiteur de la SGLT2 ou un agoniste de la GLP1, recommandation de classe A. Chez les patients qui ont de l'insuffisance cardiaque, est-ce qu'il est nécessaire d'introduire ou d'ajouter ou de remplacer les médicaments pour un inhibiteur de la SGLT2?
Absolument. Les inhibiteurs du SGLT2 ont démontré un bénéfice cardiovasculaire dans cette population-là, mais cette ligne de traitement-là permet aussi de diminuer les hospitalisations pour insuffisance cardiaque, prévient la détérioration de l'insuffisance cardiaque, puis améliore les symptômes, les limitations physiques, puis améliore la qualité de vie des patients insuffisants cardiaques. C'est important de référer ces patients-là vers des équipes interprofessionnelles en cardiologie pour une prise en charge intégrée afin d'optimiser la thérapie. Donc, les patients avec insuffisance cardiaque asymptomatique devraient avoir un IECA ou un ARA afin de réduire les risques de progression d'insuffisance cardiaque. On parle d'une recommandation grade A. Concernant le patient diabétique avec insuffisance cardiaque stade C, la quadrithérapie est indiquée, tout comme chez les patients non diabétiques. Donc, c'est quoi la quadrithérapie? C'est un IECA ou un ARA ou de l'entresto, un bêta-bloqueur, un antagoniste des minéralocorticoïdes et évidemment un ISGLT2. Donc, un rappel à l'effet que chez les patients diabétiques de type 1 ou chez les patients diabétiques de type 2 qui pratiquent un régime cétogène, ces patients-là courent un plus grand risque d'acidocétose avec la prise d'inhibiteurs du SGLT2. Un encadrement rigoureux est donc nécessaire avec les mesures de cétone, l'enseignement approprié pour la pratique d'activité physique puis les jours de maladie. Donc, si on juge qu'un patient diabétique de type 1 a des grands bénéfices à tirer de cette thérapie-là parce que, par exemple, il y a de l'insuffisance cardiaque, il y a de l'insuffisance rénale, certaines équipes très spécialisées peuvent encadrer des fois la prise de GLT2 là, dans cette clientèle-là, mais en gardant toujours en tête qu'il y a un risque d'acidocétose.
Donc, je pense que c'est maintenant très clair pour les patients qui sont porteurs d'une maladie vasculaire établie. Maintenant, en absence de maladie cardiovasculaire, on va plus en prévention primaire chez les diabétiques, mais chez des patients qui ont un plus haut risque parce qu'ils ont plusieurs facteurs de risque, on sait jusqu'à tout récemment qu'il n'y avait aucun médicament qui prévenait la maladie cardiovasculaire. Peut-être un peu la metformine, mais si peu. Mais maintenant, les agonistes récepteurs de la GLP-1 ont vraiment démontré une efficacité dans la réduction du risque cardiovasculaire. On sait, par exemple, que les sulfonylurées n'augmentent pas le risque cardiovasculaire comparativement aux inhibiteurs de la DTP4, mais ces deux médicaments ne diminuent pas le risque. On a eu l'occasion de discuter d'insuffisance rénale dernièrement avec la docteure Judith Bellemare lors d'une autre balado-diffusion. Mais à titre de rappel, chez les patients qui ont une insuffisance rénale ou protéinurie, on sait maintenant que les inhibiteurs de la GLT2 diminuent le risque cardiovasculaire global. Chez les patients qui ont donc un risque cardiovasculaire élevé, ils semblent vraiment bénéficier d'une introduction d'une inhibiteur de la SGLT2, mais peut-être moins en prévention primaire que l'utilisation, dans ce contexte, des agonistes récepteurs de la GLP-1. Il y a maintenant la finérénone, qui est un nouvel antagoniste de l'aldostérone sélectif, un peu comme l'aldactone, si on veut, mais qui semble beaucoup moins associé à l'apparition d'hyperkaliémie, qui ne cause jamais de gynécomastie ou d'impuissance. Chez les patients diabétiques avec atteinte rénale, la finérénone, qui est quand même un faible antihypertenseur, va quand même diminuer, en plus du risque rénal, le risque cardiovasculaire résiduel. Miraculeusement, la RAMQ a remboursé ce médicament au début janvier 2024 et donc les critères d'acceptation sont quand même assez larges. Voici ce qui complète ce dernier épisode sur la prévention cardiovasculaire. Merci beaucoup à Émilie Vigneault-Simard pour ses commentaires. J'espère que cela va susciter votre intérêt pour la prévention et le traitement de la maladie cardiovasculaire chez les diabétiques. Je vous rappelle que le chapitre concernant cette atteinte cardiovasculaire dans Diabetes Care est téléchargeable en utilisant le lien qui est fourni dans la description de cet épisode et que ce téléchargement est parfaitement légal. Je vous rappelle que ce balado est une production de la plateforme Cœur Poumon où vous pouvez trouver les autres épisodes de cette série. Alors merci de votre écoute attentive et à la semaine prochaine.